Café OBN, jour de demi-finale à l'Omnium Banque Nationale, en compagnie de Sébastien Goulet ce matin. Sébastien, es-tu prêt?
Oui, monsieur, c'est parti!
Salut Sébastien, très content de te retrouver. Merci de venir en frappeur de relève comme ça à la dernière minute pour les gens qui le savent pas. Il y a 10 minutes, Sébastien Goulet ne savait pas qu'il était sur le show, comme on dit. Et il est avec nous parce que on l'a dit un peu plus tôt cette semaine, Nicolas Richard a de la mortalité dans sa famille. Hugues Léger avait des obligations familiales aussi. On avait prévu faire un show un peu différent ce matin. Alors, merci Sébastien de te joindre à nous à la dernière minute. On va faire un petit show écourté aujourd'hui, une trentaine de minutes, pour regarder ce qui s'est passé hier et regarder ce qui s'en vient aujourd'hui. Je veux aussi présenter, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, vous n'avez peut-être entendu parler au début de la semaine parce qu'on les a présentés, mais Nicolas et Abraham, salut les gars qui sont les as du podcast Sur la ligne cette semaine. C'est eux qui s'occupent de la plupart des publications médias sociaux. Là, enfin, 90% à peu près, ils font tout le travail. Les gars, est-ce que le niveau d'énergie est encore bon? Je commence avec toi, Abraham. Est-ce que ça tient le coup?
Ouais, ça tient le coup. Ça va super bien. Un petit sommeil, puis on est reparti pour la fin de semaine.
Nico, c'est notre gars de matin, alors c'est lui qui se lève de bonne heure. Ben Abraham aussi, parce qu'il y a des obligations. Nico, est-ce que le niveau d'énergie est bon?
Ah oui, sûr, beaucoup, beaucoup. Puis surtout que là, tantôt, je m'avais voir Sabalenka contre Pliskova, là, fait que ça me motive encore plus.
Eh bien, garde, écoute, on va commencer directement avec ça, les gars. Je vais vous garder pour cette première partie-là du show. Sébastien, tu vois ça comment, cette première demi-finale-là, si on saute directement dans le sujet? Sabalenka, là, elle va être dure à battre d'ici la fin de l'année.
Clairement. Et puis, je pense qu'elle a démontré cette semaine qu'elle a la puissance pour déstabiliser n'importe qui sur le circuit à un point donné. Son service est à point, ses frappes sont puissantes en coup droit. Je ne vois pas comment elle ne pourra pas gagner ce tournoi-là à Montréal. Oui, Pliskova a quand même connu de bons résultats, une victoire facile en 2-7 sur Sorribes Tormo, mais j'ai l'impression que tout va. C'est la semaine d'Arina Sabalenka. Ce serait peut-être attendu jusqu'à tard hier soir, que c'était peut-être la semaine d'Once Jabeur. Bon, cette belle histoire de ce conte de fées-là, c'est terminé. Donc moi, je pense que Sabalenka va partir avec ça, avec une victoire aujourd'hui et demain également.
Ouais, en tout cas, c'est très, très, très possible. On reviendra à Ange Jabeur parce que moi, j'étais là au match. C'est spécial un peu qu'est-ce qui s'est passé. Bon, Nico, tu t'en vas voir ce match-là. Première des choses, as-tu hâte?
Oui, vraiment. Là, j'ai hâte de voir, comme Sébastien a dit, la puissance d'Arina. Là, c'est fou. Tu regardes juste à la télé, là, puis les statistiques, ils prouvent vraiment qu'elle est proche en pourcentage de la puissance comme du service des hommes. Puis j'ai hâte de voir ça. Puis peut-être que Pliskova, ben, elle a quand même bien joué ces temps-ci cette semaine. Fait que elle pourrait créer une surprise. Mais comme Sébastien dit, moi, je pense que Arina est partie pour la victoire.
Ouais, c'est une autre puissante, ça, Pliskova. Là. Elle est capable de servir très fort. Abraham, vite, je te demande ton opinion sur ce match-là. Est-ce que tu penses que Sabalenka peut s'en sortir?
Écoute, dès que j'ai vu le match de Sabalenka contre Marino, je me suis dit, OK, Sabalenka, c'est une autre ligue. Fait que je pense que Sabalenka, là, elle va se rendre jusqu'au titre.
Ouais, ça se pourrait très bien. La bonne nouvelle, c'est que pour Sabalenka, elle mène la confrontation 2-1 contre Pliskova. Enfin, on verra qu'est-ce que ça va donner. Je pense que d'une manière ou d'une autre, et peut-être que je me trompe, mais ça va se gagner dans le haut du tableau. Là. Je pense que le gagnant de ce match-là va finir avec la victoire, là, je pense. Le bas du tableau est un peu plus faible. Écoute, Nico et Abraham, je vous remercie pour votre mini-intervention. Je vous ramène un peu plus tard, là, les gars, lâchez pas, puis félicitations pour votre excellent travail. Là. Le podcast Sur la ligne repose à 98% sur vos épaules.
Merci.
Lâchez pas, les boys. Alors, Sébastien, je vais rapidement faire le tour de ce qui s'est passé du côté des femmes. Hier, on a commencé avec Sabalenka qui a remporté son match contre Azarenka. D'ailleurs, Azarenka, je ne sais pas si tu as vu la conférence de presse, on lui a demandé si Sabalenka était la joueuse la plus puissante, puis c'est bizarre, mais elle a comme hésité à répondre. Elle a dit, ben, ça dépend qu'est-ce que vous comparez, ce que toi tu trouves puissant, c'est peut-être pas ce que quelqu'un d'autre trouverait puissant. Oui, comparé aux autres filles, elle est plus puissante. En tout cas, elle était comme un peu en demi-teinte par rapport à sa réponse, un peu comme agacée. J'ai trouvé ça assez surprenant.
Il y avait une bonne réponse, c'est de dire, cette semaine, oui, c'est la plus puissante.
Ça aurait été plus simple. Pliskova contre Sariba Estormo, ben, je pense que Sariba Estormo n'est pas encore dans la catégorie des joueuses de Pliskova. Pour ce qui est de Coco Gauff contre Georgie, ça c'est intéressant parce que moi je pensais que Coco Gauff allait faire qu'une seule bouchée de Georgie, mais ça n'a pas été le cas. Elle a montré beaucoup de caractère parce qu'elle a sauvé beaucoup de balles de match, mais Georgie, elle surprend. Je ne sais pas si tu as eu la chance de la suivre un peu parce que je rappelle aux gens que tu es à Toronto, tu es le reporter pour TVA Sport à Toronto, donc tu suis Montréal plus du coin de l'œil que Toronto, évidemment, là, mais son parcours est quand même assez exceptionnel, là, Georgie.
Ouais, on a deux écrans en tout temps, donc on regarde toujours ce qui se passe du côté de Montréal, là, ce qui est diffusé à la télé. Et écoute, c'est la première fois en 15 ans qu'elle atteint une demi-finale de Masters 1000. 15 ans de carrière, faut le faire là quand même pour Camila Giorgi. Il y a tellement eu d'histoires cette semaine à Montréal, différentes, de belles beaux profils à suivre. Bon, ben, Sabalenka qui domine, il y a l'histoire de Ange Jabeur avec toute la délégation maghrébine qui s'est présentée au stade soir après soir. Puis t'as aussi Camila Giorgi, là, celle qui travaille avec le casque de construction, les bottes d'acier depuis 15 ans à faire son chemin sur ce circuit-là, qui enfin trouve le moyen de trouver une première demi-finale. Puis elle a démontré dans le deuxième set, selon moi, face à Gauff hier, que lorsque vient le moment donné là où elle est sous pression, elle réagit très bien. J'ai très hâte de voir comment cette demi-finale-là va se dérouler.
Ouais, ben puis c'est une demi-finale que personne n'avait prévue. En tout cas, si vous aviez prévu ça, bravo là. J'ai de la difficulté à c'est un tableau quand même assez relevé. Et si c'est surprenant qu'on voit Georgie gagner, surprenant, j'entends. Faudrait Coco Gauff a quand même juste 17 ans, là, mais quand même, je pense que plusieurs la voyaient gagnante. Si c'est surprenant qu'on ait vu Georgie gagner, à mon avis, à moi, c'est encore plus surprenant que Pegula ait battu Ange Jabeur. Ange Jabeur jouait très bien, elle venait de battre Bianca Andreescu, qui s'était quand même bien défendu malgré tout. Et puis, après le premier set que Ange Jabeur a remporté 6-1, moi, je me disais, mon Dieu, ça sera pas long ce match-là, je vais être de retour chez nous, parce que j'étais sur place, je vais être de retour chez nous pour planifier mon émission de demain, je vais pouvoir me coucher de bonne heure, mais ça n'a pas été le cas, le match s'est étiré plus que prévu.
Et Jessica Pegula, faut pas l'oublier, là, elle a eu beaucoup de succès à l'Omnium d'Australie, ça a été une année là où elle, en 2021, elle a connu des très bons moments. Demi-finale WTA 1000, elle l'a fait également précédemment. Deux autres quarts de finale dans l'année. Donc, c'est une joueuse qui est en progression encore là. C'est une joueuse qui progresse sur le tard, je te dirais, parce que ça fait quand même une douzaine d'années là, qu'elle est sur le circuit. Ce que je trouve, là, c'est que son visage dit, moi, c'est 100% à faire. Elle n'a pas peut-être un charisme ou une personnalité aussi attachante que d'autres joueuses peuvent l'avoir sur le circuit. Est vraiment sérieuse et c'est seulement à la fin, là, quand Jean-Philippe ou encore Ivanka de Sportsnet, il procède à l'entrevue, qu'on a pu la voir esquisser un sourire parce que sinon, là, c'est allez, faut faire le travail, il faut régler le tout. Et puis le travail, ben, elle l'a fait en troisième manche, un 6-0, alors que le match était à la portée de Jabeur là, jusqu'à 7-6 en deuxième manche. Et après ça, là, elle ne lui a pas concédé un an. Je pense que Jabeur a gagné seulement un point dans les 12 premiers de la troisième manche. Donc, c'était rapide, du bon travail de Pegula hier soir.
Jessica Pegula, qui si les gens vous savez pas le savent pas, c'est la fille de Terry Pegula, le propriétaire des Sabres de Buffalo, et c'est une fan d'hockey. On l'a déjà vu au Rempart de Québec, Sébastien. Je sais pas si tu savais ça. Peut-être qu'elle était là un soir où tu décrivais un match.
OK. On en avait un fan d'hockey, nous autres aussi à Toronto hier soir, peut-être le plus grand du circuit de l'ATP, ben, figurativement et littéralement, John Isner, qui a d'ailleurs reçu un chandail des Maple Leafs hier, un cadeau de l'organisation. Il l'a porté fièrement sur les terrains à Toronto. comme quoi tout est dans tout.
il est fan de quelle équipe, John Isner?
C'est un partisan des Hurricanes de la Caroline. Ah,
c'est, j'osais pas le dire, mais c'était l'équipe que j'avais en tête, mais j'étais pas assez sûr, parce que je me disais, comment tu peux être fan des Hurricanes?
Il s'est excusé aux fans de Toronto pour Frédéric Anderson, qui va aller jouer en Caroline, mais Bunch of Jerks, les Whalers de Hartford, il dit qu'il a grandi là, alors il l'a toujours apprécié, là, en 97, c'était le déménagement, donc fan de la Caroline depuis le début.
Bon, ben, c'est bien ce que j'avais dans mon souvenir. Et là, je vois que Paul Rivard se joint à nous. Allô, Paul?
Bon après-midi.
Bonjour, Paul. Non, ben, bienvenue. Tu connais Sébastien Goulet? Je n'ai pas besoin de te le présenter.
Enchanté, M. Rivard.
Vous n'êtes pas à Toronto, vous?
Oui, oui.
Alors, pour vous expliquer, je l'ai écrit à Alexandre, c'est la plus vieille excuse du siècle, mais mon iPad était mort, mon alarme n'a pas sonné, j'ai fait beaucoup de vélo hier en 2 matchs de tennis et j'ai trop dormi. Mais pas d'excuses.
Aucun problème, tu arrives juste à temps pour les prédictions de la demi-finale et pour ça, je vais rentrer Nicolas et Abraham. Ouais. Je ne sais pas si tu les connais, mais ils sont nos gestionnaires de médias sociaux. C'est eux qui font tout un travail sur Twitter et sur Instagram, et etc. C'est eux qui nous permettent d'avoir une bonne visibilité et de faire augmenter notre nombre d'abonnés. OK, les gars, je vais commencer avec Abraham. Tiens, je vais y aller par ordre alphabétique. Abraham, est-ce que... vas-y pour tes prédictions pour les 2 matchs du côté féminin.
Écoute, ça va être évident, une victoire de Sabalenka en 2 manches, selon moi ça va aller vite, et j'irai pour Jessica Pegula qui va gagner et se rendre en finale aussi.
Wow, tu donnes pas beaucoup de crédit à Pliskova quand même là. Ok, parfait. Et Nico, j'ai dit pardon alphabétique. Alex, je vais y aller à moi. Moi, je pense effectivement que Sabalenka va l'emporter. Je pense que Pegula ne gagnera pas ce match-là. Je pense qu'elle va être très fatiguée. Hier, j'étais surpris qu'elle offre une si bonne performance après le match qui est terminé à 1h30 du matin. Je pense que Georgie va l'emporter parce qu'elle va arriver avec plus de force. Nico, tu vois ça comment? Tu as déjà dit que Sabalenka allait l'emporter. Pegula, Georgie, tu vois ça comment?
Ben, moi, je vais aller dans la même direction que toi. Je pense que Georgie, là, elle peut continuer sur sa lancée. Puis que oui, Pegula, hier, elle a offert toute une performance contre Jabeur, mais je pense que aujourd'hui, ça va diminuer un peu. Fait que moi, je prends Georgie pour le duel Georgie-Pegula.
Paul, prédiction?
Ben, écoutez, j'ai toujours, depuis le début de l'année, mentionné que Jessica Pegula était une des plus belles histoires compte tenu de l'âge qu'elle a, compte tenu du fait qu'elle ne s'est jamais retrouvée avec autant de victoires significatives. 2021 est une année invraisemblable. Mais le facteur fatigue, comme tu l'as dit, Alexandre, est tellement important. Et là, ça fait plusieurs matchs qui sont pas évidents. J'ai bien peur aussi que Camila Giorgi soit elle aussi, et elle, c'est une revenante, ou en fait, elle peut pas revenir parce qu'elle a jamais été. Mais c'est vraiment une vétérane surprise, et c'est peut-être le tournoi de sa vie. Effectivement, elle n'a pas eu des gros matchs, alors je pense que je dois favoriser Giorgi. Sabalenka, effectivement, pourrait faire à Pliskova ce qui arrive souvent. Cependant, dans un duel de fortes serveuses, et s'il y en a une dont la machine s'enraye, ça pourrait peut-être être le cas de Sabalenka, mais on va y aller avec la logique, je pense.
Ouais, ce sont des choix judicieux. Nico et Abraham, merci, merci beaucoup. Je vous ramène pour les prédictions un peu plus tard, messieurs. Allons à Toronto. Sébastien, là, il y a beaucoup de choses à dire parce qu'il s'est passé beaucoup de choses. Mais allons-y chronologiquement avec Tsitsipas qui... Il est convaincant et il faudrait pas se surprendre de le voir avec le trophée dans les mains. En tout cas, c'est très très possible d'ici dimanche. Sébastien, Tsitsipas,
ça rime.
Oui, ça devrait pas trop être compliqué contre Opelka.
Au contraire, là, Opelka, là, quand ça entre à 219, 225, 230 km/h, là. Peu importe qui est l'autre bord du filet, c'est pas évident à venir, là, cette balle-là. Il y a une belle histoire qui est en train de se dessiner ici. Puis j'en ai parlé hier avec John Lesneux, ça se place bien dans une conversation. J'en ai parlé avec John Lesneux sur le terrain en lui disant Riley Opelka, après sa victoire, nous a confié, nous, qu'il allait encourager John Lesneux, qu'il allait prendre carrément pour John Lesneux en soirée. Il y avait une controverse, rappelez-vous, il y a quelques années sur John Lesneux qui se faisait appeler Servebot en disant tout ce qu'il fait, lui, c'est être capable de servir. Pour le reste, il n'y a aucun autre arsenal dans son coup. Dans son carquois. Et puis, Riley Opelka a vraiment pris ça au mot et a décidé de s'auto-déclarer Servebot Junior. Il a d'ailleurs signé la caméra hier en écrivant Servebot après sa victoire. Et Opelka a déclaré après le match, « Si je n'étais qu'un joueur qui ne savait servir, je ne gagnerais pas au tennis. Je suis plus que ça. J'ai des coups dans mon arsenal. Je suis capable de retourner des balles, je suis capable de frapper en coup droit et en revers, et c'est la raison pour laquelle je suis rendu en demi-finale maintenant. Donc, attention. Oui, Tsitsipas joue très bien. Ça, je le concède. Il y a eu une très belle semaine, mais je pense, et je serai peut-être le seul à me mouiller, qu'on pourrait avoir une surprise dans la première demi-finale à Toronto. Je pense que Riley Opelka, présentement, fait tout ce qu'il faut pour atteindre la finale demain.
OK, ben écoute, on déduit un peu ce que tu veux dire. Je retiens ta prédiction parce que je vais ramener nos
boys. D'ailleurs, tu vas demander celle pour Montréal, mais moi, c'est toujours la même à Montréal, c'est Canadien en 7.
Oui, ben exact. Mais je t'ai pas demandé tes prédictions pour du côté des femmes.
Non, mais c'est pas grave.
OK, mais Sébastien, c'est quoi tes prédictions?
J'ai dit que Sabalenka allait gagner le tournoi, donc difficile pour elle de ne pas l'emporter en demi-finale. Et puis, je parle dans le cœur de Paul, alors que Camila Giorgi va gagner aujourd'hui. Et Pegula, malheureusement, peut-être un manque d'essence dans le réservoir aujourd'hui.
Ouais. Ouais, je pense qu'on est pas mal tous sur la même page. Alors voilà, erreur rectifiée. Merci, Sébastien, de nous ramener à l'ordre comme ça. Petite tape sur la main, voilà. OK. Bon, Opelka, quand même. OK, je vais revenir sur Opelka parce que moi, je pense qu'il... Honnêtement, je pense qu'il va se faire détruire par Tsitsipas parce que Tsitsipas, il joue vraiment bien. Mais en même temps, je pensais que Bautista Agut allait battre Opelka parce que, c'est un joueur plus polyvalent, c'est un joueur, je n'oserais pas dire avec plus d'expérience, mais je pense que, en tout cas, j'avais choisi Bautista Agut pour battre Opelka. T'as raison, ça pourrait être une surprise. Dans le cas de Medvedev, est-ce que tu trouves aussi que ça devrait être, est-ce que tu penses qu'il devrait passer lui aussi, Sébastien?
Je pense que Medvedev peut faire plus du jeu typique Isner face à Isner, que Tsitsipas peut servir la recette à Opelka. Donc, je pense que Medvedev va réussir à s'en sortir et c'est juste ce qu'il a fait hier, d'ailleurs, réussir à s'en sortir en gagnant 3 manches, les 2 dernières en prix d'égalité. Il y a eu un point tournant dans ce match-là. Tiré de l'arrière 2-3 dans la 2e manche, était au service, était à 15-40. Et je l'ai vu clair comme moi, son entraîneur était assis 2 rangées devant, ils se sont regardés, et son entraîneur, il a juste fait ça comme ça. Et sur le terrain, 3 heures auparavant, terrain d'entraînement, Medvedev et son entraîneur discutaient à la toute fin de la séance. Medvedev avait mis son masque, était en train de quitter. Son entraîneur lui a dit, « Rappelle-toi ce que je t'ai dit. » Il a fait signe, « Un point à la fois. Garde tes objectifs courts. » Et à 15-40, 2-3, le 1 est revenu. Qu'est-ce que Medvedev a fait? 2 services que Kurkacz n'a pas été capable de retourner. Ça a ramené égalité. Selon moi, c'était un point tournant dans ce match. Et Medvedev l'a lui-même amené ce point-là dans son entrevue d'après-match en lui disant « J'ai cliqué avec mon entraîneur et ça s'est reviré de bord à ce moment-là. » Mais tu peux pas te mettre dans le trouble comme ça face à un gars qui sert à 225-230 en face parce que sinon, ça pourrait finir plus rapidement. Urquhart, c'est très bon. Urquhart ramenait tout. Là. C'était un chat hier sur le terrain. Medvedev a creusé au plus profond de son énergie. John Isner, c'est pas du tout le même type de joueur, mais il y a encore une grande portée, là, vous le savez, là, il était lancé, il est un ratisse large. Alors, il y a un piège possible pour Medvedev, mais je pense qu'il va réussir à s'en sortir.
Ouais, Urkacz, à mon avis, à moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, les boys, c'était quand même un adversaire vraiment compliqué. Pour moi, c'est une des révélations de l'année 2021 sur le circuit de l'ATP, pas parce qu'on ne l'attendait pas nécessairement, mais parce qu'il a vraiment livré des résultats absolument exceptionnels. Paul, Medvedev, tu vois ça comment? Est-ce que tu le pars grand favori pour le prochain match ou tu es en réserve encore parce que Isner peut s'en sortir?
J'ai mes petites opinions là-dessus, mais je vais revenir sur ce que Sébastien a dit. C'est assez extraordinaire et fascinant. Comment On va dire, dans tous les sports, on nous dit un lancer à la fois, un match à la fois, une période à la fois, les boys. Comment au tennis, alors qu'ils se vantent tous depuis qu'ils ont 4 ans jusqu'à 40 ans, quand on s'appelle Federer, qu'il faut toujours prendre les points, les échanges, un à la fois. Comment il faut toujours jouer pour le présent et non pas pour la victoire qui est 2 heures plus tard. C'est fantastique. Et là, Sébastien vient de nous dire, ils viennent d'appliquer simplement ce qu'ils prônent depuis la nuit des temps. Oui. C'est pour dire aussi, je conclue, que c'est extraordinaire l'esprit humain, comment les plus grands pros sont capables de sortir comme ça d'un plan de match et de se mettre à envisager la victoire, de se mettre à se dire, c'est 40-0, c'est 5-2, c'est terminé. Moi, je me rappelle comment il y a 3 jours, ou 2 jours, je me rappelle plus, il y a 3 jours, Rebecca Marino menait 5-2 contre Badosa. C'était il y a 3-4 jours, c'est ça. J'y étais d'ailleurs. Et à 5-2, j'avais dit à mon ami qui était avec moi comme invité, qui suit le tennis un peu, ah, c'est merveilleux, quelle histoire, quel conte de fées. J'ai dit, attends, c'est peut-être pas fini. Elle va commencer à voir la fameuse ligne d'arrivée. Hein? La finish line, là, c'est extraordinaire. Alors, c'est ce qui est arrivé. Et elle, l'autre a commencé à remonter. Fin de la parenthèse. Très bon point. Maintenant, oui, Medvedev, on est obligé de le mettre favori. Tsitsipas, on est obligé de le mettre favori. Mais hier, je l'ai dit un peu à la blague, mais là, je commence à peut-être le dire non pas à la blague. Tu sais, on a de la visite derrière mon mur. C'est extraordinaire. Ah, ben c'est vrai, c'est un rideau, ça bouge toutes mes écoutes. Je disais donc, à la blague, j'avais mentionné, ça serait amusant, une finale Isner-Opelka. Et là, je commence à y croire. Vous allez me dire, it's a long shot, man. Tout à fait, vous avez raison. C'est clair que Medvedev et Tsitsipas doivent être favoris pour aller en finale. Mais imaginez une finale entre Riley Opelka et John Isner. Et imaginez, je répète ma blague d'hier, que nous aurions un premier set à 7-6 en 24 minutes, alors que ça en dure 58-59 d'habitude. Et je relance aussi Sébastien, parce que je vais ajouter que John Isner a souvent aussi été taxé d'être incapable de faire autre chose qu'un service. Oui. Je continue de voir John Isner capable de faire des échanges extrêmement longs et compliqués. Et depuis le début du tournoi, on a vu Riley Opelka se sortir, notamment, là, j'ai vu un match contre Dimitrov, là, tard un soir. Je n'en revenais pas à quel point ce gars-là était capable de faire autre chose que des services. Alors, gardons-nous peut-être une surprise pour ce qui est des deux demi-finales. On verra, mais allons-y avec la logique. Hein.
On reviendra avec des prédictions claires officielles dans quelques minutes, parce que c'est chose certaine, si on a une finale entre Isner et Opelka, faudrait mettre les gens sur les côtés et non pas en arrière, juste ouais. Au cas où pour la sécurité de tout le monde.
Non, mais les services qui touchent des bouts de raquettes, ça se retrouve sur les côtés.
Ah, c'est ça. Mais très Sébastien, avant que j'ai 2-3 petits trucs que je vais faire après, mais il y a quelque chose que John Isner t'a dit en entrevue hier que j'ai trouvé vraiment intéressant. Parce qu'il a dit, tu sais, on parle beaucoup des Tiafoe, des Taylor Fritz, de ces joueurs-là, mais il dit, pour moi, c'est une fierté de rester au sommet du tennis américain, puis c'est une de mes motivations de pouvoir continuer à me battre, puis d'être un modèle pour de ces gars-là. Il dit, évidemment, je les encourage, mais je veux rester devant ces gars-là, puis je trouvais ça intéressant, cette clip-là qu'il t'avait donnée, Sébastien.
Je ne sais pas si c'est l'esprit olympique qui perdure, le patriotisme américain. Quand il m'a dit, effectivement, on est roi 14 dans le top 100 présentement des États-Unis.
Not too shabby.
Oui, exactement. Et que Opelka a encouragé Isner hier soir, je l'ai informé. Puis, il y a vraiment une belle relation entre ces deux-là. Deux gars qui ont, écoute, c'est quasiment deux géants jumeaux, là, quasiment, bon, je dirais pas si à moi parce qu'ils se promènent pas toujours ensemble, mais bon. c'est... S'il fallait, et Paul a évoqué le scénario, que ce soit ces deux gars-là qui s'affrontent, Opelka ayant admiré Isner depuis son tout jeune âge, ça écrirait toute une histoire et ça
conclurait
une semaine. On a eu quelques incidents hier dans le match Isner, mon fils.
On va y revenir.
Ouais, où Isner, il nous l'a dit après le match, ça ne va pas déranger du tout. On voyait vraiment que c'était deux types de tennis différents. Mon fils, le tennis spectacle, Isner, vraiment le tennis là, puissant qu'on lui connaît. Et Ryder Pelka, le même style. On a vu Francis Tiafoe. Tiafoe, je te dirais, joue plus dans la cour de mon fils au niveau du style que dans la cour de ce qu'on voit habituellement aux États-Unis. Taylor Fritz a eu du succès également. Rappelez-vous, écoutez, je parlais des succès passés américains au tournoi. C'est la première fois depuis 1997. Ça fait quand même un certain temps qu'on a deux Américains en demi-finale au tournoi masculin au Canada. On regarde le dernier finaliste américain. Bon, Andy Roddick avait gagné, mais si on regarde dans les finalistes, Marty Fish est le dernier. Ça date de 2011. Pourtant, c'est nos voisins de frontière. C'est le début de la saison sur les durs qui met la table pour le US Open. On se renvoie de s'attendre à ce que les Américains aient peut-être un peu plus de meilleures performances. Et de voir que John Isner, à son âge, encore une fois, arrive tous les jours, grand sourire au visage, réalise le bonheur qu'il a de pouvoir encore faire ça et connaître du succès à son âge, malgré les difficultés qu'il a eues en début d'année. Je trouve que c'est remarquable.
Bravo. Ouais, et t'as raison. Mais juste faire une parenthèse sur le tennis américain. Là. On en parlait avec Ben Rotterberg un peu plus tôt cette semaine, le journaliste du New York Times. C'est intéressant parce qu'il faisait un commentaire. Il dit « Oui, il y a 14 Américains dans le top 100 », qui est probablement le plus haut total de tous les pays au monde. Là. Je vois peut-être les Espagnols en ont pas loin de ça. Là. Je sais pas, là. Je l'ai pas calculé. Là. Mais il reste que le premier Américain le mieux classé, c'est John Isner au top 30. Alors, d'une certaine manière, le tennis américain qui, pendant des années, était la référence, pendant très longtemps, tu avais les Américains, les Espagnols puis les Français, puis c'était eux qui dominaient la scène du tennis pour l'essentiel. Mais là, ils sont, d'une certaine manière, relégués à un pays de deuxième tiers. Mais enfin, c'est intéressant de voir Isner. Là. C'est juste la petite parenthèse que je voulais faire, parce que même s'ils ont 14 dans le top 100, ils n'ont personne qui peut aspirer, en tout cas théoriquement, à remporter un grand chelem au début du tournoi, je pense. OK, messieurs, juste avant qu'on aille faire nos prédictions, puis je veux qu'on parle de Gaël Monfils, parce que ça a fait jaser hier, mais avant, parce que je sais que ça va faire jaser, c'est le temps de parler des petites entrevues qu'on va publier aujourd'hui. Messieurs, j'ai rencontré Mélodie Collard, qui est hyper sympathique, je sais pas si vous la connaissez. J'ai fait une entrevue avec elle qui a duré une vingtaine de minutes. On est revenu sur son tournoi. Je vous propose d'écouter un extrait de cette entrevue-là qu'on sort un peu plus tard aujourd'hui.
Je dirais que j'étais vraiment, vraiment excitée de jouer. Premièrement, je jouais sur le central devant du monde, devant ma famille, mes amis. C'est rare que ça arrive devant juste le public montréalais. C'était vraiment, vraiment le fun. Oui, quand je suis arrivée à mon premier service, j'étais fébrile. Justement, je pense plus par le fait que j'étais sur la centrale, puis je voulais vraiment enjoy le plus possible mon expérience. C'est vraiment le fun, c'est ça, de jouer devant la foule montréalaise, parce que à chaque fois, le monde écrit ton nom, puis tout, ça t'encourage à vraiment continuer à donner tout ce que t'as. C'était pas la première fois que je jouais devant une foule, mais c'était la première fois que je jouais devant une foule qui voulait vraiment que je remporte. Alors, c'était vraiment, vraiment fun.
Est-ce que tu as déjà été, j'imagine que oui, assis dans les gradins sur le central?
Ouais, c'est sûr que j'y étais souvent.
Et là, d'être la personne qui est regardée sur le central, as-tu réalisé un peu l'exploit que c'est? Parce que maintenant, pour le restant de tes jours, Mélodie, tu peux dire que tu as joué l'Omnium Banque Nationale, le plus gros tournoi au Canada, un des plus gros tournois au monde.
Ouais, non, c'est vraiment spécial. Et comme je te dis, quand je suis arrivée sur le terrain, puis juste mettre tes pieds sur le terrain, puis avoir tout le monde qui te supporte, puis tout le monde est là pour se regarder toi jouer, puis t'encourager toi, tu sais. Donc, toute l'attention est tournée vers toi, tous les regards sont vers toi. C'est une sorte de pression, mais c'est aussi quelque chose de tellement, qui fait tellement monter ton niveau, qui te rend tellement... Moi, c'est un des meilleurs feelings que j'ai eu dans ma vie. C'est le feeling que je recherche quand je suis sur le terrain. Alors, c'est sûr que juste de passer des estrades au terrain, c'est sûr que c'est quelque chose que j'ai toujours cru que ça pouvait arriver, mais là, je suis vraiment fière que ça soit arrivé.
Elle est tellement sympathique, Mélodie Collard, messieurs. Puis elle a été celle qui, je sais pas si elle a beaucoup d'amis ou un grand réseau de PR, mais l'épisode qu'on a fait avec elle il y a quelques mois avait explosé. Là, ça a été notre épisode le plus écouté. Alors, merci, Mélodie, de contribuer à nos codes d'écoute. Deuxième élément que je veux vous présenter, Louis-Philippe Trudeau, un de nos collaborateurs, a fait une entrevue avec Richard Quirillon, Paul, que tu connais bien, pour avoir travaillé avec lui. Richard était entre autres occupé des mesures sanitaires à l'Omnium Banque Nationale, qui est un thème assez important cette année. Alors, je t'invite à écouter un extrait de cette entrevue-là sur le sujet.
Ouais, c'est une bonne première question. Je te dirais que l'objectif, c'était pour nous de se préparer pour le pire, espérer pour le mieux. Puis, à date, À date, ça va très, très bien. On est vraiment, vraiment content. La première chose, c'est qu'on est premièrement extrêmement content de pouvoir tenir le tournoi. Déjà là, le fait d'avoir eu l'autorisation nous a rendu tellement heureux. Donc déjà là, on partait vraiment avec beaucoup d'espoir pour la suite des choses. Et puis, ben, on s'est préparé. Écoute, on s'est préparé comme on n'aurait pas pu mieux se préparer. C'était des heures et des heures et des heures. On pourra peut-être en parler davantage au courant de la chronique, mais en effet, on est très, très content, puis ça se déroule très bien à date.
Difficile de dire que ça se déroule pas bien pour l'instant. Là. Visiblement, tout semble correct. Il y a eu à Toronto un joueur qui a été expulsé, Sébastien, mais c'est à peu près tout. Et il a été expulsé parce que lui et son équipe, je pense, sont allés chercher quelque chose au dépanneur et ont brisé la bulle, entre guillemets. Là. Alors, c'est à peu près le seul cas qu'il y a eu et c'est pas un cas de COVID, là. C'est plus un cas de non-respect des mesures.
Alors voilà. Mon cher Alexandre, yes. Notre ami Kévillon gérait les écouvillons. On va s'en rappeler longtemps.
Exact. Et moi, je sais, pour avoir travaillé dans la LHMQ, avec la LHMQ cette année, les tests COVID, j'en ai fait un, puis un autre, j'ai dû me faire tester 30 fois cette année.
Ah, wow. D'ailleurs, tant mieux, on a évité le virus. Chaque personne doit être bien heureuse.
J'allais dire, la LHMQ a fait tout un travail d'ailleurs pour présenter une saison. Juste faire un petit aparté. Sébastien, t'allais dire?
Oui, j'ai remarqué en regardant les matchs à la télé que les protocoles sont peut-être un peu différents à Toronto qu'à Montréal. À Toronto, les masques sont obligatoires pour les gens de la bulle dans les gradins. Les gens ne peuvent pas les enlever. Je sais qu'à Montréal, une fois que tu es statique à ta place, tu as le droit de retirer ton masque, ce qui n'est pas le cas pour nous à Toronto. Et dans la chaleur à 45 ressentis aux abords du terrain plus tôt cette semaine, je vous dis que c'est assez suffocant. Et aussi, à Montréal, les joueuses et le personnel du tournoi est transporté. Il y a des gens de comité de transport, des chauffeurs qui vont les conduire. Tandis qu'ici à Toronto, chaque joueur a un véhicule qu'il conduit lui-même ou quelqu'un de sa bulle. Il n'y a pas de bénévole impliqué. Et ces joueurs-là, justement, tu parlais de l'incident du dépanneur de Musetti un peu plus tôt cette semaine. Ces joueurs-là ont droit d'aller à l'hôtel et ont droit de venir au stade. Et il y a des puces pour tracer tous ces gens-là. C'est la raison pour laquelle on a su que Musetti avait quitté le trajet que l'on voulait. Là, tout le monde est suivi au quart de tour avec GPS. On s'assure de respecter les protocoles. C'est pour ça qu'on n'a vraiment pas niaisé dans notre cas de Musetti. On a vu qu'il y avait eu un bris et puis bonsoir.
Wow!
Ça fait peur quand on y pense.
Ben, j'ai vu un trailer hier, justement, là-dessus.
Wow. OK, messieurs, Paul était... visiblement, il s'est couché tard hier parce qu'il m'a écrit un courriel, il devait être minuit ou à peu près, en disant « Je veux parler de ce qui s'est passé avec Gaël, mon fils. » Et moi, je lui ai répondu « Ne t'inquiète pas, Paul, c'est déjà dans le plan de match.
Ouais, »
Parce que dès que j'ai vu qu'est-ce qui s'est passé, je me suis dit « Mais tu sais, je suis allé à l'école Paul Rivard. » Alors, c'est normal qu'on ait à peu près la même façon de penser les sujets, là, en tout cas au moins de ce dont on veut parler. Bon, j'ai pas les images, Paul, parce que c'est un peu compliqué. Là. On n'a pas le droit d'utiliser des images in-game pour les versions
compliquées. Je peux te le résumer si tu veux.
Ben, exact. Si tu le proposes, explique qu'est-ce qui s'est passé dans le match entre Isner et mon fils qui a tant fait jaser, puis après on pourra en débattre.
Et Sébastien, dans le fond, qui était sur place, pourrait bien pu le résumer. Sébastien, je te fais confiance pour me corriger, peut-être dans la chronologie des différents événements, mais on va essayer aussi de le résumer parce qu'on pourrait faire une heure de débat là-dessus. Ça donne lieu à toutes sortes d'opinions. Alors, on est en deuxième manche. Sébastien, corrige-moi, c'était 3-2 ou 3-3?
À 3 partout.
3 partout. On a les services Isner et tout à coup, Gaël, mon fils, se met vraiment à faire une navette entre l'extrémité du couloir et la ligne de centre. Et il se promène, c'est tout juste s'il ballottait pas les bras, un peu comme un vilain joueur de hockey l'a fait devant Martin Brodeur un jour pour lui bloquer la vue. Alors, il se promène, et là, ben, on sent un petit flottement, notamment chez les analystes et commentateurs comme nous à la maison. Puis là, moi, mon premier réflexe, oui, je suis un gars traditionnel, mais je suis quand même pour que le tennis se déconstipe un peu. On connaît tous Gaël, mon fils, mais je n'avais jamais vu quelque chose d'aussi extrême. Il se promène sans cesse. Et là, on entend les murmures de rire dans la foule. Et à un moment donné, l'arbitre Mohamed Layani, parce que lui, il est important dans l'équation. Il, il lui signale à un moment donné, je ne sais pas si c'est après un service, que là, attention, il doit peut-être arrêter. Et là, Gaël, mon fils, peut-être sur le service suivant, continue. Et là, il y a, je vous dis, dans la chronologie, là, je n'ai pas tout noté, mais là, à un moment donné, Mohamed Layani lui donne un avertissement.
Officiel.
Là, Gaël, mon fils, lui, il s'en va le voir en disant, « Hey, arrête, je le fais tout le temps, je l'ai déjà fait. Demande à John Isner, John, est-ce que j'ai déjà fait ça? » Puis, on n'a pas vu la réaction de John Isner, mais il sent que John Isner a dit, « Oui, il l'a déjà fait. » Et Isner se prête au jeu pour ça. Et là, après, dans le service suivant, continue un peu moins, mais il le continue. Le service suivant continue. Et là, il reçoit, je ne sais pas si c'est là qu'il a reçu l'avertissement officiel. Et là, commence un dialogue. Et lorsque Gaël, mon fils, après avoir finalement perdu le jeu, s'en retourne pour ses services, on le voit du haut des gradins discuter avec quelqu'un. Je pensais qu'il discutait avec quelqu'un de la foule, mais non. Il y avait, qu'on ne voyait pas tout de suite, Tony Cho, qui est le superviseur du tournoi, qui est assez stoïque. Hein? Il ne réplique pas, il a un masque, on ne voit pas son visage. Là, il y a le jeu qui se poursuit. Gaël gagne le service, il s'en retourne s'asseoir. Ça continue pendant le jeu. Il continue à parler à Mohamed Layani, qui là, lui dit, « T'as pas d'affaire à danser comme ça. » Et là, c'est ce qui met Gaël, mon fils, en furie. Quand un autre responsable du tournoi vient le voir, il dit, « Écoute, je le connais, Mohamed, je l'aime, mais il n'y a pas d'affaire à me dire que je danse. » Il se sent insulté. Et là, il commence à avoir un argument là-dessus. Gaël et Mohamed Layani, qui, contrairement à ce qu'on pourrait penser, qui vient du Moyen-Orient, qui vient du monde arabe, n'est quand même pas un francophone. Il ne parle pas français. Je m'en suis aperçu il y a quelques années en voulant lui parler. J'étais sûr, Mohamed Layani, je lui parle en français, il ne comprenait rien de ce que je disais. Donc, c'est un gars qui, évidemment, s'exprime très bien en anglais, mais il n'a peut-être pas choisi le bon mot pour dire « tu as un comportement qui est anti-jeu ». Puis là, Gaël, mon fils, dit « Comment ça, anti-jeu? Je fais toujours ça. » Puis Gaël a toujours la foule de son côté, on est tous d'accord, c'est un bon vivant. Il a dit d'ailleurs à l'arbitre, et là encore, je mêle les chronologies, il dit « Écoutez, moi, je joue au tennis parce que j'aime ça, je joue au tennis pour la foule. » Et on le sait. Et est-ce que je n'ai pas vu aussi à un moment qui précédait cet événement-là, Gaël, mon fils, qui a fait un de ses smash dunks en sautant à peu près 4 pieds dans les airs, il s'en va à son banc ayant gagné le jeu, il rigole et on voit même que Isner passe à côté de lui en rigolant. Vous savez, l'ambiance était bonne enfant. Ce sont deux joueurs qui se respectent et qui s'aiment. Maintenant, je vais laisser Sébastien me corriger sur peut-être la chronologie des événements ou peut-être sur l'ensemble, mais c'est à peu près ce qui s'est passé et là, on en est au débat. Est-ce que vous êtes d'accord avec Mohamed Layani? Je reviendrai à cet arbitre-là un petit peu plus tard, qui est mon préféré aussi. Est-ce que, dans le tennis, on devrait avoir le droit de faire ce qu'on veut puis de montrer ses fesses à l'autre serveur pour le déranger? Ou c'est inacceptable qu'on essaie de déranger un serveur par ce type de moyen autrement que par d'autres moyens? Alors, parce que Francis Tiafoe, dans un match précédent, je me demande si c'était pas contre Denis Shapovalov, était rendu complètement sorti de l'autre côté du couloir pour essayer de lui dire « Vas-y, frappe la balle, frappe ton service sur le thé, je te laisse ouvrir. » Alors, je conclue ici.
J'en ajoute au début et j'en ajoute à la fin.
Très bien.
L'incident de la danse est survenu alors qu'on était à 0-30. Donc, mon fils avait déjà concédé 2 services à Isner. Et mon fils s'est retourné, il est venu dans le coin, il a dit à la foule « Si je vais au centre, il va à droite. Si je vais à l'extérieur, il revient au centre. Alors, je vais couvrir les deux. » Puis, il a carrément annoncé à son camp. Et c'est là qu'il s'est mis à faire les allers-retours. Pour le reste, l'histoire est complète. Lorsqu'il a reçu l'avertissement de l'AINI et qu'il a eu une première discussion avec Tony, est revenu, et là, a dit à la foule, « Vous savez, tout ce qu'on essaie de faire de différent dans ce sport-là est interdit. » Ça ne devrait pas l'être. Il n'y a rien qui couvre. Il n'y a pas de règle qui couvre ça. Et après le match, vous savez, la façon que ça se passe, le joueur qui perd quitte le terrain, on prend son applaudissement. Les diffuseurs, dans notre cas, c'est Sportsnet qui a 3-4 questions. Nous, on en a 2. L'ATP va aller prendre 1 ou 2 questions additionnelles. Donc, il y a du temps qui passe, là. Peut-être 10 minutes avant que le vainqueur quitte le terrain. Je ramasse mes choses, je quitte pour m'en aller vers le centre média. Et moi, j'ai le privilège de pouvoir passer par le tunnel des joueurs pour voyager. Et je passe justement devant les bureaux des superviseurs de l'ATP où Gaël, mon fils, est en train de servir une volée de bois vert à deux ou trois individus du circuit, plaidant sa cause. Je sens vraiment qu'il a touché une corde sensible du conservatisme du tennis hier. Et ça va lancer un débat dans un sport que je compare peut-être un peu à ce que le baseball est au niveau du conservatisme. Mais là, je pense qu'on est à un point de bascule. Qu'est-ce qu'on veut au tennis? Est-ce qu'on veut préserver l'héritage, garder la tradition et faire de Wimbledon un standard qui va être étendu partout dans le monde? Ou on veut permettre aux joueurs d'être eux-mêmes, de se donner en spectacle et qui sait peut-être d'attirer même un public plus jeune? J'irais même jusqu'à lancer le débat à ce niveau-là.
Messieurs, je vais résumer en quelques mots là, pour que ça, peut-être, surtout pour ceux qui nous écoutent en audio, que ce soit un peu plus clair. En gros, Gaël, mon fils, au retour de service, bougeait de droite à gauche. Il avait l'air un peu d'un gardien de soccer sur un penalty qui bouge les bras un peu, bouge un peu de droite à gauche. Alors, c'est ça.
Ou d'un gardien de plus de hockey sur table.
Oui, il bougeait de droite à gauche. Okay. Alors, voilà. Bon, l'arbitre, en plus, Paul, tu fais bien de le mentionner, c'est pas un des arbitres, c'est un arbitre qui est apprécié des joueurs, c'est un arbitre qui a beaucoup d'expérience, puis ça me semble pas, là, je suis vraiment pas un spécialiste des arbitres, je peux pas t'en nommer 5, mais en fait, je peux pas t'en nommer 2. Fait que, il me semble pas, tu sais, on l'a vu souvent dans des vidéos, il me semble pas le plus stiff, entre guillemets.
Okay. Ben, si tu me permets de décrire Mohamed Layani, qui pour moi est un des plus respectés du public, du milieu et des joueurs, il est quand même flamboyant. Mohamed Layani est un gars qui, à l'époque où il y avait le Hawkeye traditionnel, était capable de sa voix de stentor de mettre fin immédiatement à un débat et on entendait sortir un correction extrêmement fort immédiatement. On sait comment il y a des arbitres qui n'aiment pas se mouiller, qui sont complètement invisibles dans leur chaise et qui ne corrigent à peu près rien. Lui, il avait, comme on dit, les deux mains sur le volant. Ben, il les a toujours, là. Mais on sait que depuis le Hawkeye Live, il n'y a quasiment plus un arbitre qui va contester une décision parce qu'on sait que c'est toujours la machine qui a raison. Mais Mohamed Layani, aussi aimé soit-il, aussi respecté soit-il, est devenu l'arbitre vedette du circuit. Hein. Vous savez, comme on dit, un arbitre ne doit jamais voler le show. Lui, des fois, il le faisait un tout petit peu, mais je n'entendais pas utiliser le mot « voler », mais il faisait partie du spectacle. Quand je vois Mohamed Layani et que j'entends sa voix, je dis « je pense que j'aime encore plus le match ». C'est à ce point-là. En terminant, là où cependant Mohamed Layani s'est fait prendre par le personnage qu'il a créé, par la grande confiance qu'il a en lui et par l'amour que le public lui décerne, c'est dans l'épisode où il avait semoncé et même… parler à Nick Kyrgios comme s'il était son entraîneur, son oncle, son tuteur. Et quand Nick Kyrgios a fait une bourde, comme il en a fait des milliers, qu'il a commencé à tout gâcher dans son match, ben il lui a dit, ça c'était il y a 3 ou 4 ans, « Écoute, je veux t'aider, arrête de faire ça, t'es meilleur que ça. » Puis Nick Kyrgios était revenu puis avait gagné le match et ça avait sorti. C'est bien ça, Sébastien, il l'avait gagné. Par toi, je sais que tu as une mémoire phénoménale, Alexandre aussi. Alors là, on avait dit, « Hey, il a changé le cours du match. Tu n'as pas le droit de faire ça. » Alors donc, un arbitre n'a pas le droit de commencer à prendre le parti d'un joueur pour corriger un problème alors que l'autre, il essaie de gagner. Et il avait été suspendu. Et probablement que l'ATP l'avait suspendu à regret, mais il avait été suspendu. Hier, j'ai vu poindre exactement dans un registre un peu plus petit, un autre épisode, Layani. Puis malheureusement, ben quand il a voulu dire « t'as pas d'affaire à danser comme ça », ça c'est le Layani qui est tellement convaincu d'avoir raison, est tellement convaincu qu'il l'a utilisé la mauvaise façon. Il aurait juste dû dire « tu as raison, ce n'est pas défendu, mais c'est ma prérogative d'arbitre de dire que… » Parce que dans le règlement, c'est ce qu'on disait, hein, c'est la prérogative de l'arbitre de juger si ce que comportement-là qui n'est pas défendu ne devrait pas être fait. Alors, voilà.
Paul a échappé ses écouteurs. Je profite du fait. Je lance la question. Tu parles de prérogative de l'arbitre. Pourquoi est-ce qu'il ne s'est pas retourné pour dire à John Isner, est-ce que ça te dérange? Oui.
Voilà.
Arrête-t-elle ou non? Ben, OK, go.
Bon, merci, Sébastien. C'est exactement la note qu'il fallait ajouter là-dessus. C'était la bonne chose à faire. Puis, c'est merveilleux qu'Isner soit capable de garder son calme avec de tels simagrées parce que, comme tu le dis, c'est un podcast. Certains nous voient, mais on n'a pas le droit de montrer les images. Peut-être que sur YouTube, entre-temps, il y aura une chance de les trouver. C'est vraiment pas évident et je comprends l'histoire des droits de télédiffusion. Mais c'était pas banal, hein, Sébastien, Alexandre, tous ceux qui ont vu ça. C'était pas banal ce qu'ils faisaient. Moi, personnellement, j'avais un malaise. J'avais un gros malaise. Je le sais, je suis un gars traditionnel, mais je veux aussi qu'on déconstipe le tennis. Mais j'avais un gros malaise.
Ben, allons-y justement. Là. Et je vais commencer avec Sébastien. J'ai intégré aussi Abraham et Nico pour avoir leur opinion parce que, bon, Abraham et Nico, au-delà d'être nos gestionnaires de médias sociaux, sont aussi des grands fans de tennis. C'est pour ça qu'ils travaillent avec nous. Bon, allons-y. Acceptable ou pas acceptable? Jeu ou anti-jeu? Sébastien, je commence avec toi.
Si l'adversaire n'est pas dérangé, aucun problème.
Bon, ça, c'est un argument court. Paul, tu dis j'ai un malaise avec ça. Pourquoi?
Parce que, écoutez, on parle de tradition tennis. C'est un sport, je dirais, chevaleresque. Deux hommes face à face avec seulement leur arme. On interdit les conseils en théorie. C'est un autre débat, on en a déjà parlé. Mais est-ce que tu as besoin de ce type de stratégie? Et entre vous et moi, m'excuse, ce n'est pas juste. Il est fort devant toi, trouve le moyen d'anticiper. Tu ne peux pas anticiper, tant pis. Tu es mieux de ne pas perdre ton service, car c'est ça, sa force. Alors, je dirais que j'abonde dans le même sens que ce que Sébastien a dit, très brièvement. Je suis tout à fait d'accord, si ça ne dérange pas l'adversaire. Mais moi, je n'aime pas ça. À proscrire, ce n'est pas à moi de faire ça. Je n'aime pas ça. Point à la ligne.
Mais Paul... T'sais, Gaël, mon fils, c'est un des joueurs les plus rapides sur le circuit. Alors, est-ce qu'il n'a pas intérêt à jouer sur ses avantages et dire « OK, moi, je suis peut-être capable de bouger de droite à gauche et de rattraper la balle qui va être du côté que
mais
j'avais pas prévu. »
Pas de là faire le clown de l'autre côté pendant que l'autre se prépare.
D'accord, mais...
Et c'est un clown que j'adore, hein, en passant.
Ben oui, ça, on le sait. Mais en même temps, je suis pas si convaincu que ça que c'est un avantage pour celui qui reçoit de bouger de droite à gauche. Alors, si c'est pas nécessairement un avantage comme tel... Et que l'adversaire ne s'en plaint pas, et là, je trahis un peu ma position. Je veux dire, laisserons le joueur de l'autre côté faire. C'est pas comme s'il parlait pendant le point, puis si on part parler, là, et on a vu Medvedev, une situation un peu surréelle. Mais enfin,
puisqu'on est là,
moi, si l'adversaire s'en plaint pas et que c'est pas un avantage marqué sur le jeu, c'est pas a priori de la triche, et pour Gaël, mon fils, qui est peut-être le gars qui se déplace le plus rapidement sur le circuit de l'ATP, pourquoi pas se donner une chance de jouer sur ses forces? Abraham, qu'est-ce que tu penses de cette situation-là? Toi, est-ce que tu es plus du côté de Paul en disant « Ben, je suis un peu plus réticent, faut
écoute,
laisser... » Ouais, vas-y.
Écoute, moi, je suis... Paul te dit tout ce que j'avais à dire. Écoute, ça me tentait de parler de l'événement avec Kyrgios qui est arrivé. Tu l'as dit. J'ai fait, ah, oh, tabarouette. Il l'a dit. Mais le travail d'arbitre, c'est de superviser le match. Selon moi, il aurait dû aller voir l'autre bord, voir Isner et dire, OK, c'est-tu correct? Est-ce que t'es correct avec ça? C'est-tu déjà arrivé avant? Est-ce qu'on peut continuer de jouer de même? Ou j'avertis mon fils? Là, Mohamed, il a pris son opinion à lui. Puis je pense pas que son opinion compte là-dedans. Mais écoute, j'ai la même opinion que toi, Paul.
Mais la question que tu poses, Abraham, elle suppose un peu ce qu'on a reproché à cet arbitre-là dans le cas de Nick Kyrgios. Okay, ouais. Si tu vas voir le joueur et tu te dis « OK, mais toi, est-ce que tu penses que ça devrait être illégal? » Alors que c'est la job de l'arbitre de décider si c'est illégal ou pas, c'est anti-jeu ou pas. Je pense que s'il demande l'opinion à Isner sans que Isner ait démontré ce soit plaint directement, je pense que c'est comme s'il prenait un bord ou l'autre. Parce que si Isner dit « Ben moi, je pense que c'est anti-jeu », puis l'arbitre se retourne devant vers Gaël, mon fils, et dit « Ben c'est anti-jeu », il va dire « OK, mais est-ce que c'est mon adversaire, ouais, l'arbitre, ou c'est toi? » Je sais pas. Les gars, vous en pensez
parce
quoi?
Parce que moi, ce qu'on voyait, c'est que c'était clairement les deux joueurs étaient corrects avec ça. Dans un sens où un des joueurs n'aurait pas été à l'aise avec ça. Là, ça aurait pu créer un gros débat, puis l'arbitre aurait un gros rôle là-dedans. Mais pour le match d'hier, selon moi, ça devait se régler entre les deux joueurs.
Mais Sébastien, es-tu d'accord avec moi que c'est un peu touché si l'arbitre demande l'opinion? aux joueurs? Ou est-ce que c'est moi qui est dans les patates?
Selon moi, tant que la situation n'est pas écrite noir sur blanc dans un livre de règlement, ça laisse place à interprétation. Je crois qu'il n'y a pas de meilleure façon de juger si quelque chose est permis ou pas que de voir si les deux joueurs sont d'accord à ce que ça se produise.
Nico, tu penses quoi de ça? Ouais, Paul.
Avant que Nico réponde, je trouve ça intéressant. Je viens d'avoir un flash. Autre incident anecdotique qui, lui, était plus drôle qu'autre chose, mais où on a encore, où là, inversement, on a vu deux joueurs tout à fait d'accord contre un arbitre qui voulait appliquer le règlement. C'était Medvedev contre Bublik. C'était un moment où, arbitré par Aurélie Tourte. Je te vois la réaction, Alexandre, tu te rappelles, puis probablement Sébastien l'a vu passer aussi. C'est un échange extrêmement spectaculaire et Bublik pourrait avoir été déclaré gardien de but kazakh du tournoi de tennis quand, au filet, Medvedev smash à Bublik qui est à 10 pieds derrière le filet et Bublik, en s'écrasant quasiment sur son derrière, met sa raquette devant lui et trouve le moyen d'attraper la balle. En fait, c'est la balle qui l'a attrapée, que la balle revient dans les airs du côté de Medvedev. Medvedev était tellement sûr par un smash sur son adversaire d'avoir gagné le point qu'il s'excuse au moment où la balle est encore en jeu, car effectivement, elle est revenue et il a terminé ça sur un smash décisif. Là, Aurélie Tourte dit « point à Bublik » parce que Medvedev a parlé pendant l'échange. Sébastien a dit « quand c'est un règlement écrit noir sur blanc ». Ça, c'est un règlement écrit noir sur blanc. Oui. Tu ne peux pas parler pendant un échange. Mais là, les deux joueurs se regardent. Et là, Medvedev dit « écoutez, ça va être sur tous les réseaux sociaux, c'est la décision la plus stupide que j'ai jamais entendue. » Et là, les deux se parlent, les deux rigolent et les deux sont d'accord. Et là, Aurélie Tourte, qui, elle, ne fait qu'appliquer le règlement, aurait peut-être dû demander aux deux joueurs, et même Bublik voulait donner le point à Medvedev. C'était assez fascinant. Là, je vais fermer cette parenthèse pour dire que, à quelque part, l'idée qu'un arbitre puisse quand même, de façon très noble et digne, en revenir aux joueurs, est une chose très possible et rend le travail de l'arbitre encore plus efficace, je crois.
Ça, c'est un excellent point que tu apportes à la question que j'ai posée, Paul, parce que je trouvais que dans le cas de mon fils, il y avait un parti pris, mais effectivement, dans le cas de Medvedev, je pense que si les deux joueurs sont d'accord dans une situation comme ça,
ben oui.
Effectivement, on peut demander l'opinion aux joueurs. Je trouve que ça répond très bien. Mais Nico, spécifiquement sur mon fils, toi, jeu, ben, anti-jeu?
Pour être bref, je pense que l'ATP en ce moment, c'est vraiment est dans une zone grise. Puis hier, c'était un très bon exemple parce que moi, je me range du côté de mon fils, mais je pense que l'arbitre, comment je pourrais dire, je pense que l'arbitre peut aller voir Isner, il peut prendre son opinion en considération, puis hier, Isner, il était correct avec ça. Parfait. Mais ça, moi, je pense que l'arbitre doit prendre son opinion à lui et ne doit pas être manipulé par l'adversaire ou par celui qui se sent comme attaqué, comme mon fils hier. Donc, je pense que l'arbitre devait trancher hier et non, oui, aller voir Isner, mais pas vraiment prendre son opinion à la lettre. Et puis, moi, je comprends pourquoi mon fils est allé voir, comme Sébastien a dit, les bureaux de l'ATP pour les rincer un peu parce que les propos de l'arbitre, quand j'ai entendu ça, j'ai fait « oh ». J'ai vraiment regardé mon écran, j'étais figé. Là.
Ce qu'il faut comprendre pour les propos de l'arbitre et la danse comme telle, moi, j'y vois pas un trop gros problème, surtout quand c'est pas ta langue maternelle. Tu sais, ça, il peut y avoir comme une espèce de traduction dans ta tête que tu peux interpréter comme étant correct et ça va moins bien être reçu par une autre personne, je sais pas. Tu sais, là, pour ce qui est du terme danse, je peux comprendre que mon fils a été peut-être insulté, je pense pas. Ben franchement, que c'était si insultant que ça, là, comme tel. Là. Mais dans le cas où, et c'est le cas pour plusieurs arbitres au tennis, quand il y a une traduction, quand c'est pas ta langue maternelle, et je pense pas que c'est sa langue maternelle, l'anglais, bon, peut-être que,
ça
peut-être
ne que l'est le pas.
Terme a été mal interprété. Enfin.
Intéressant.
Mais c'était, Mais en que c'est intéressant. Moi, en tout cas, je serais pour qu'on le laisse faire si c'est pas un avantage. Paul, t'as dit que t'as un malaise, mais t'es pas complètement contre non plus. T'es pas complètement fermé à une idée de comme ça, de ce que je comprends. Nico, Abraham, merci beaucoup pour votre participation. C'est intéressant d'avoir votre input. Sébastien, merci d'avoir sauté dans la mêlée à la dernière seconde. Paul, merci d'être arrivé presque à temps pour les prédictions. Ça a été super et t'as été plus que pertinent comme tu l'es à chaque fois. Messieurs, après, il nous reste juste une émission. Ce sera la finale demain. Je vous laisse aller écouter les demi-finales. Bonne journée de tennis, messieurs.
Merci infiniment. Bonne journée à tout le monde.